Radio Kapi. Oh, Kapi.
Au sommaire de ce journal, les bilans s'alourdissent après les attaques des ZIF dans la région de Beni Lubero mercredi et jeudi dernier au Nord Kivu. Selon la société civile locale, le bilan est passé d'une vingtaine à 50 personnes tuées, ce qui porte le nombre total à 90 personnes tuées en l'espace de 8 jours. Publication des résultats des examens d'État hier soir ici à Kinshasa. L'ambiance était au rendez-vous dans les familles des finalistes au secondaire qui ont réussi. Jusque tard dans la nuit, ils étaient dans la rue célébrant leur réussite. L'invité de ce midi est la chef du secteur de la Lufira dans le territoire de Kambov, province du Haut-Katanga. Ruth Kiamabamba parle de son entité et des défis auxquels elle fait face pour son développement. Bonjour. Dans le territoire de Beni, les bilans des nouvelles attaques des rebelles de ZDF à Babila Bakaiko, une localité du secteur de Benimbaou mercredi et jeudi, est passé d'une vingtaine à 50 personnes tuées, ce qui porte le nombre total à 90 personnes tuées en l'espace de 8 jours. Des dégâts matériels importants ont été également enregistrés, rapporte la société civile locale. André Kitenge nous en fait le point.
Ces attaques des rebelles des ZDF ont été perpétrées dans 3 villages de la localité de Babila Bakaiko dans le groupement de Batangimbao. Selon le président de la société civile locale, les rebelles des ZDF sont devenus actifs dans la région. À l'espace de 2 jours, ils ont tué 50 personnes et le bilan s'alourdit, comme l'affirme Kinos Katuo, président de la société civile locale.
Le bilan du mercredi au jeudi 24 juillet 2024 dans les agglomérations de Mangambo, Katere, Kotaokola est passé de 19 à 50 personnes tuées par les ZDF NAL. Donc, à l'intervalle de 8 jours, du 16 au 24 juillet, nous avons un bilan de 90 personnes tuées. Nous sollicitons au gouvernement congolais d'équiper, motiver et renforcer l'effectif de nos militaires fardessés sur terrain.
Cet acteur de la société civile indique que plusieurs autres corps de personnes tuées gisent encore sur le lieu du drame faute d'accessibilité dans la zone. Kinos Katuo se dit préoccupé par la situation sécuritaire dans la région. Il sollicite le renforcement des soldats des FARDC dans la région et le lancement des opérations militaires conjointes FARDC-UPDF. Pour l'instant, l'armée n'a pas encore donné sa version des faits. André Kitenge, Beni Radio Okapi.
Pendant ce temps, en Ituri, au moins 15 personnes sont prises en otage par les rebelles de ZDF et plus d'un millier d'agriculteurs ont abandonné leur village et activité champêtre vers Lolwa dans la chefferie de Babila Bakwanza dans le territoire de Mambasa. Ce bilan est publié jeudi par la nouvelle société civile de Mambasa. Cette structure signale la migration d'une centaine de ces rebelles de la chefferie voisine de Walesevonkutu dans le territoire d'Irumu vers 2 entités coutumières à Mambasa. Conséquence, les activités économiques sont paralysées dans cette zone. Reportage d'Isaac Remoyope, rendu par Martial Kizabiamungu.
Un mouvement de rebelles de ZDF estimé à plus de 100 personnes est observé depuis 2 semaines vers les chefferies de Walesekaro et Bessé dans les territoires de Mambasa. Ils fuient les opérations militaires menées par les forces conjointes FARDC et armées ougandaises dans les territoires d'Irumu. Selon la nouvelle société civile, une dernière vague de ces ZDF est passée la semaine dernière dans la zone. À leur passage, ils ont déjà pris en otage au moins 15 personnes depuis le 15 juillet dernier vers Andiseli. Plusieurs villages composés essentiellement des agriculteurs sont vidés de leurs habitants, ajoute la nouvelle société civile de Mambasa. Les activités agricoles sont paralysées dans ces villages qui regroupent plus de 1000 paysans. Même dans les entités plus proches, la population craint de se rendre au champ pour ne pas tomber dans l'embuscade de ces hommes armés. La nouvelle société civile de Mambasa indique que la présence de ces rebelles sur l'axe commandant Mambasa risque de plonger plusieurs agglomérations dont le chef-lieu de la province dans une crise alimentaire. Bounia, Martial Kizabiamungu, Radio Okapi.
Ici à Kinshasa, l'ambiance est au rendez-vous depuis hier soir dans les familles et l'entourage des plusieurs finalistes du secondaire qui ont réussi à l'examen d'État. Ici à Kinshasa, plusieurs écoles des provinces éducationnelles des Monts en Bas et des Plateaux 1 ont pu se rendre compte de leurs résultats, comme promis par l'inspecteur général à l'éducation nationale et nouvelle citoyenneté. Babel Mpongo, John Chibwabwa, Étienne Lissumbu et Jonathan Fouanani sont allés se rendre compte de l'ambiance de cette publication ce jeudi soir. Suivez le reportage.
Entre cris de joie, prières, musique et danse, finalistes parents, frères et amis célèbrent ce grand pas franchi. C'est au travail à la maison, au shop du quartier que certains candidats et leurs parents ont appris l'heureuse nouvelle. Madame Micheline est encore au travail au centre-ville quand soudain elle pousse un cri de joie. Caleb a réussi, Caleb a réussi. Ses collègues alertés accourent, s'en suivent des embrassades. Un flacon de poudre blanche est vite trouvé, elle en est aspergée. Du coup, tous ces petits sachets d'arachide qu'elles vont deviennent gratuits. À Limba, dans la famille d'Ephraim, une fête improvisée a commencé. Il vient de décrocher son diplôme.
Je remercie le bon Dieu parce que j'ai obtenu mon diplôme.
À Yolo, dans la commune de Kalamou, ces deux finalistes expriment leur joie, surtout un candidat malheureux l'année passée.
C'est une joie immense, vraiment. Je rends grâce à Dieu parce que l'année passée, n'a pas été échec, mais cette année, vraiment, j'ai obtenu 71%.
Je suis vraiment content, toute ma famille est contente, mes amis.
Les cœurs continuent de battre pour les finalistes, encore en attente des résultats, quoique certains se disent confiants.
Quand je vois les autres en train de célébrer, ça me donne aussi envie de célébrer parce que je sais aussi que moi aussi, je vais réussir. Donc c'est là que je danse.
Maman Geneviève, tout en célébrant la réussite de son fils, appelle les finalistes à fêter dans le calme en évitant les débordements souvent fatals.
Dans la province de la Tchopo, les établissements d'enseignement supérieur technique, technologique et artisanal du Grand Nord renforcent leurs capacités sur la bonne gouvernance, l'appropriation du système LMD ainsi que leur numérisation. Cet atelier de deux jours, soit du 24 au 25 juillet courant, organisé par les conseils d'administration de ces établissements, se déroule à l'enceinte de l'Institut supérieur des commerces de Kisangani et est présidé par le secrétaire permanent de cet organe statutaire de l'ESU. Sous les hauts patronages du gouverneur des provinces. Les explications avec Jacques Mkonkolé.
Outre les établissements concernés de l'ex-province orientale, ceux de l'Équateur, de la Mongala et de la Chuapa y sont également conviés. Le DG de l'ISC Kisangani, le professeur Jean-Claude Essouka Alfani, l'hôte de cette messe scientifique, décline les attentes au terme de cet atelier.
Une formation à la hauteur de nos défis, les défis du développement de notre pays. Une formation à haute capacité de résilience. Une formation axée sur l'entrepreneuriat. Une formation à fort coefficient d'employabilité, susceptible d'induire l'éclosion d'un tissu d'entreprise locale, gage de la croissance économique de notre pays.
Pour sa part, le président de la conférence des chefs d'établissement de l'ESU Tchopo et recteur intérimaire de l'université de Kisangani, le professeur Jean-Jeannot Djouakali, rappelle les objectifs et les avantages de cet atelier dans le fonctionnement des établissements du KISTAT.
Faciliteront la maîtrise des concepts LMD, des exigences qu'ils représentent, des approches pratiques qui les sous-tendent, ce qui permettra en conséquence d'enseigner, d'évaluer et de gérer autrement.
Peu après les orientations de cet atelier par le secrétaire permanent du KISTAT, le gouverneur de province par intérim Didier Lomoyo a rassuré ses hôtes du soutien par le gouvernorat de toute action visant l'amélioration de la qualité de l'enseignement. Jacques Mkonkolé, Kisangani, Radio Kapi.
Dans les Maniema, absence de femmes dans les gouvernements provinciaux, Moussa Kabouankoubi Moïse 1, les femmes leaders réunies au sein de la coordination provinciale du mouvement Rien sans les femmes, haussent les tons. Ces dernières informent le président de la masculinité toxique qui existe au Maniema et appellent l'Assemblée provinciale à ne pas investir ces gouvernements sans les femmes. On écoute Madame Nafissa Assoumani, présidente du mouvement Rien sans les femmes, coordination provinciale du Maniema, propos accueilli par Florence Kizalunga.
Son Excellence, Monsieur le chef de l'État congolais Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, champion de la masculinité positive. Maniema, gouvernement sans femmes, masculinité toxique. Secrétariat provincial, véritable flatterie. Nous, femmes du Maniema, exigeons avec toute énergie la nomination immédiate des femmes aux capacités requises à la représentativité significative et sacrée dans la Constitution à son article 14. Demandons à l'Assemblée provinciale de ne pas investir ce gouvernement provincial sans femmes. Pour toutes les femmes leaders du Maniema réunies ce 24 juillet 2020.
Au Nord Kivu, l'hôpital général de référence des Beni dispose désormais d'une usine de fabrication de l'oxygène médical, une dotation du gouvernement congolais. Son fonctionnement a été effectif le week-end dernier avec la fabrication d'une dizaine de bonbonnes d'oxygène. Cette usine qui dispose d'une capacité de production de 2500 litres d'oxygène médical par jour va couvrir cette zone de santé de la région des Beni. Le docteur Jérémy Mouindo, médecin directeur de l'hôpital général des Beni, parle d'une usine qui répond aux besoins de la prise en charge des malades. Il est dit au micro de Martial Papi Moukeba.
La première phase d'essai a été réalisée. Nous avons produit un lot important de bonbons d'oxygène. Donc, on a produit 14 bonbons d'oxygène. Ça a bien marché. Nous pensons que ça, c'est une réponse vraiment à ce que nous avons toujours éprouvé comme difficulté dans la réanimation, surtout respiratoire, de nos patients dans des situations critiques. C'est un plus dans la prise en charge. L'oxygène, c'est un intrant de réanimation. Nous utilisions jadis c'est les petites machines qu'on appelle les concentrateurs d'oxygène, mais qui ne nous facilitaient pas la tâche de pouvoir donner aux malades l'oxygène qui a toutes les caractéristiques pour faire cette réanimation respiratoire. Donc, nous pensons qu'avec cette usine, on a cette fois-ci de l'oxygène pur, donc l'oxygène vraiment médical. Donc, tel que vous le voyez devant nous là, c'est une usine qui va nous produire par 24 heures à 50 bonbons.
Autre nouvelle, la méfiance des bailleurs des fonds à l'égard des institutions publiques congolaises en raison de la corruption qui leur est associée. Ceci est l'un des problèmes qui bloque le travail du Fonds national pour la réduction des émissions dues à la déforestation et à la dégradation des forêts FONARED. Il est dit dans son rapport publié ce jeudi à Kinshasa, document intitulé « Les FONARED face aux défis du changement climatique et de la gouvernance en République démocratique du Congo ». La présentation a eu lieu au cours d'un forum organisé par l'Institut des recherches Ebouteli. John Tshibwabwa nous en parle.
Dans ses rapports, le FONARED relève les défis auxquels il fait face. Le professeur Jolino Malukisa qui l'a présenté parle de l'un d'eux, la méfiance des bailleurs des fonds à l'égard des institutions congolaises.
Notre rapport, notre recherche a démontré clairement qu'il y a une tension entre les bailleurs et le gouvernement congolais. D'un côté, le gouvernement congolais se considère comme victime d'une certaine injustice parce que on a des forêts, on a des tourbières qui contribuent à l'atténuation des effets de changement climatique, mais on ne gagne pas suffisamment. Mais entre-temps, les bailleurs reprochent aussi au gouvernement congolais le fait qu'il ne met pas suffisamment de sérieux dans le fonctionnement de ces institutions.
Ces rapports soulignent que la RDC pourra gagner comme d'autres pays s'il y a une grande dynamique en termes de bonne gouvernance. Le professeur Jolino Malukisa.
Il faudra lutter contre la corruption, il faudra qu'il y ait de la transparence, il faudra qu'il y ait de la rédactabilité. Voilà, c'est autour de ces questions que nous avions échangé. Et s'il y a une grande dynamique en termes de bonne gouvernance, la RDC peut gagner davantage comme les autres pays tels que le Brésil.
Selon ces mêmes rapports, un autre problème de blocage est les conflits qui opposent le ministère de l'Environnement et Développement Durable et celui des Finances pour le contrôle du comité de pilotage du FONARED.
À Beni, au Nord Kivu, les taxis-motos et les moyens par excellence des transports publics dans cette ville d'environ 1 million d'habitants et qui, aussi surprenant que cela puisse paraître, ne disposent pas des taxis 4 roues pour les déplacements quotidiens. Des milliers de jeunes pratiquent ainsi les métiers des taximens moto, car dans cette région, le chômage pousse nombre de ces jeunes à intégrer les groupes armés. Radio Okapi s'est intéressée au travail quotidien des conducteurs des taxis-moto de Beni. Si certains travaillent la journée, d'autres préfèrent les relayer la nuit, chacun cherchant à subvenir à ses besoins et à ceux de sa famille. Sadiki Aboubakar a rencontré l'un d'eux dans les rues de Beni. Voici son reportage.
La course, c'est à combien?
La course, c'est à 1000 francs. 1500.
Gloire Bauma pratique le métier de taximen moto depuis 10 ans dans la ville de Beni. Pour lui, je cite, il n'y a pas de saut métier, il n'y a que de sautes gens. S'il est sur le point d'obtenir son diplôme de licence, Gloire Bauma affirme que c'est grâce à ses métiers.
C'est depuis la deuxième année CO que j'ai fait ça. Aujourd'hui, je suis en dernière licence, toujours dans ce même métier. En tout cas, ce qui est vrai, je n'ai pas d'autres sources de revenus, rien que ce travail.
De nombreux autres taximen moto de Beni subviennent à leurs besoins et à ceux de leur famille grâce à ce métier, soutiennent Gloire Bauma, pour qui ce gagne-pain est important parmi tant d'autres.
Au moins 80% des taximens à Beni sont des pères de famille. Ils sont en train de supporter leur famille, ils sont en train d'accomplir des petits projets pour dire que ceux qui se trompent de cette façon-là n'ont qu'à changer leur façon de voir les choses.
Même s'il passe toute la journée sur sa moto, Gloire Bahouma ne cache pas ses ambitions politiques pour le futur.
J'ai choisi de faire la science politique administrative, c'est parce qu'il y a une vision, il y a quelque chose qui bouillonne en moi que je dois faire pour voir si je peux aussi changer les choses dans ce pays.
Beni, Sadiki, Aboubakar, Radio Okapi.
Parlons à présent des Jeux Olympiques. Brigitte Mbabi et Arnold Impelanga seront les porte-étendards de la délégation de la République démocratique du Congo pour la cérémonie d'ouverture de ces Jeux. C'est vendredi 26 juillet au bord de la Seine à Paris en France. Mais comme dans toutes les délégations, celle de la RDC a respecté également la parité pour être en harmonie avec les principes édictés par les comités internationaux olympiques à l'occasion de cette compétition. D'après une source proche de la délégation, depuis leur arrivée, les 6 athlètes congolais et l'ensemble de la délégation n'ont pas encore reçu leur prime de participation. Cela peut avoir des conséquences dans la préparation mentale pour ces athlètes qui vont entrer en compétition dans quelques jours. En natation, nous avons Aristote Ndombe Mpelanga qui sera aligné dans 3 spécialités, notamment en 50 mètres nage libre, brasse et papillon, tandis que Brigitte Mbabi entrera en lice en boxe chez les moins de 66 kilos. Elle a décroché son billet lors des dernières qualifications à Bangkok en Thaïlande.
Actualité internationale.
En prélude à l'ouverture officielle des Jeux Olympiques, le président français Emmanuel Macron a présidé le premier sommet du sport. Jeudi soir à Paris, une coalition des banquiers, de banques publiques de développement s'est engagée à investir 9,2 milliards d'euros à travers le monde dans des infrastructures sportives communautaires, inclusives et durables d'ici 2030. Alors que son pays doit accueillir les Jeux Olympiques de la jeunesse en 2026, le président sénégalais a déclaré que l'idéal olympique est aujourd'hui remis en cause par la tragédie de la guerre.
L'invité.
L'invité de ce journal s'appelle Ruth Kiamabamba. Elle est la chef du secteur de la Lufira dans les territoires des Kambov, province du Haut-Katanga. Dans un entretien accordé à Radio Okapi, elle parle de son entité et des défis auxquels la Lufira, bien que bénéficiant de la redevance minière, fait face pour son développement. Ruth Kiamabamba est au micro de Jean Gandou.
Ruth Kiamabamba, bonjour.
Bonjour, monsieur Gandou.
Comment se porte votre secteur de la Lufira?
Les secteurs se portent à merveille. Et c'est un secteur qui est vraiment riche en minerais. On s'adonne aussi à l'agriculture. Il y a le lac Tchangalele qui passe par chez nous. Il y a aussi la pêche.
Est-ce qu'il y a un développement du secteur de par la présence des entreprises minières quand on sait que celle-ci paye des redevances? Il y a même la dot de 0,3%.
Bien évidemment, il y a des projets de 0,3%. Il y a les projets du cahier de charge. Il y a aussi les projet du secteur de la redevance minière.
Et qu'est-ce qui a été fait à partir de toute cette manne financière?
Il y a des écoles qui ont été construites, des hôpitaux, le bureau de la police, le bureau de perception, donc il y en a plusieurs. Mais ce sont des projets qui existent mais qui sont encore en cours.
Mais nous avons appris que le secteur de la Lufira est mal géré, c'est-à-dire que cette manne financière qui est payée par les entreprises minières ne correspond pas aux projets qui sont réalisés ou qui sont en cours de réalisation localement. Est-ce vrai?
Je n'ai que 8 mois, ce qui fait que j'ai trouvé plus de 70 contrats au secteur et ce sont des contrats en cours. J'ai trouvé une dette de 9 millions et quelques hormis la dette de la banque, ce qui fait que quand j'ai l'argent de la redevance qui rentre, il est affecté à des projets précis, il y a la banque qui soutire son argent. Mais ce qui est vrai, il y a eu cumul de contrats. Donc, un entrepreneur pouvait avoir 5 à 6 contrats. Quand tu le payes, il n'évolue pas avec le contrat, mais il préfère soutirer dans ce qu'il a eu à travailler. Puis, il y a des contrats qui n'étaient pas la norme. Il y a des contrats qui étaient surfacturés. Il y a des entrepreneurs qu'on a eu à payer et qui n'ont pas travaillé. Donc, je suis confrontée confrontée à tous ces genres de problèmes.
Mais comment comprendre que l'entité puisse avoir des dettes pendant que chaque mois elle est payée par les entreprises minières localement implantées?
Bah, c'est la question que je me pose aussi parce que j'ai trouvé les dettes de 2021. Moi, je n'étais pas là. De 2021, 2022, 2023. Le PIA de 2023 n'a presque pas été exécuté. Les plans d'investissement annuels. Donc, c'est sur base de ça que nous travaillons au cours d'une année. Donc, c'est ça la planification. Les projets qui ont été prévus pour 2023 n'ont pas été exécutés à 100%. Donc, tout ça a fait des cumuls de dettes. Ce qui fait que depuis que je suis là, je n'ai même pas encore lancé le projet de 2024 puisque je me sens coincée avec les dettes antérieures. Ce n'est pas dans ces 8 mois où j'ai terminé la dette de 9 millions de dollars.
Et vous avez combien de groupements?
9 groupements.
Est-ce que tous ces différents groupements se retrouvent dans les projets qui ont été montés?
Non. Il y a le groupement Mulandi, Mwabe, Sangalou. Dans ces groupements-là, on n'a jamais pensé à faire quelque chose. Il n'y a que 2 groupements qui ramènent la redevance minière. En tant que chef des secteurs, j'essaye toujours de faire la part de choses et de satisfaire tout le 9 groupements.
La redevance minière vous produit combien d'argent mensuellement?
Ça varie. Par moment, c'est 350 000 dollars. Par moment, 390. Le premier mois, quand j'avais commencé, on était allé jusqu'à 700 000. Et de là, on est redescendu à 500 000.
À cause de quoi?
De la baisse de la production, puisque la redevance minière, elle est calculée sur 100%. Il y a une part qui part au pouvoir central, à la province, aux ETD, à la génération future. Récemment, on a créé même un rubrique pour effort de guerre.
Et comment arrivez-vous à faire le distinguo avec le PDL 145 territoires?
On essaie toujours de consulter, puisqu'il y a le PDL, il y a le PDL de 145 territoires, il y a le cahier de charge, il y a le 0,3%, puis il y a les projets de la redevance minière du secteur. Alors, on essaie de parcourir tous ces documents-là pour qu'on tombe sur le même projet. Si, par exemple, le projet 145 territoires a prévu de construire une école, nous, par contre, on peut construire un centre de santé, par exemple. On peut construire un centre de formation. Les 0,3% et le cahier de charge, ils financent que les villages impactés directement. Pourtant, la redevance minière, elle est là pour tout le secteur. Ce qui fait qu'il y a, par exemple, le groupement Katanga et Kiembe, ce sont des groupements qui sont plus évolués que les autres, puisqu'ils ont le projet du secteur, ils ont le projet de cahier de charge, ils ont aussi le projet de 0,3%. Pour le cahier de charge, l'argent reste à l'entreprise. L'entreprise propose des projets à la population. Par contre, eux engagent leurs entrepreneurs pour exécuter ces projets-là. Pour la dot, il y a un comité que le gouvernement national a prévu pour la gestion de cet argent-là dans toutes les entreprises.
Et donc, les secteurs ne gèrent que la redevance minière.
Oui, oui.
Ruth Kiamabamba, je vous remercie.
Merci, Monsieur Ngandou.
Et c'est par ici que nous bouclons cette édition d'information. Merci à Debs Vita qui l'a mise en onde, également à Alain Irung et Jacques-Yves Molima qui l'ont respectivement supervisé et coordonné. Patience Ngalou Lambombo vous l'a présenté. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi.